Comment, dans les industries créatives, la féodalité managériale se manifeste par l'accumulation sans fin de strates organisationnelles intermédiaires. Chaque doyen doit avoir son vice-doyen et son doyen adjoint, lesquels ont besoin de leur équipe de gestionnaires, de leur secrétaire, de leur personnel administratif. Et tous ces postes n'existent que pour nous rendre plus difficile la tâche d'enseigner, de faire de la recherche et d'accomplir les missions élémentaires qu'implique notre job. Un universitaire britannique. Tout comme le système médiéval, la féodalité managériale se caractérise par un amour de la hiérarchie pour la hiérarchie. Nous avons déjà parlé du phénomène des managers dont le boulot consiste à superviser d'autres managers, ou encore des mécanismes sophistiqués par lesquels les banques, à travers toute une cascade de services et de départements, décortiquent indéfiniment ce qui n'est rien d'autre, au bout du compte, qu'une série de chiffres arbitraires et dépourvus de sens. Rappelez-vous le récit d'Irène. Souvent, ces processus de sous-inféodation managériale découlent en droite ligne du déchaînement des forces du marché. Le poste de Kurt, chez le sous-traitant d'un sous-traitant d'un sous-traitant de l'armée allemande, était bien la conséquence directe de réformes de marché censées rendre l'État plus efficace. On observe la même chose dans des dizaines de domaines différents. Presque toutes les industries créatives voient se multiplier les strates de managers essentiellement occupés à se vendre des trucs les uns aux autres. Dans l'industrie du livre, les éditeurs, au sein des presses universitaires, ne lisent souvent pas la moitié des ouvrages sur lesquels ils travaillent, parce qu'ils doivent passer le gros de leur temps à les présenter à d'autres éditeurs. Dans les arts visuels, s'est développée toute une nouvelle couche de cadres intermédiaires appelés conservateurs, dont on considère souvent le travail d'assemblage des œuvres d'art comme ayant autant de valeur et d'importance que celui des artistes eux-mêmes. Sans parler du journalisme, où la communication entre rédacteurs en chef et reporters a été considérablement compliquée par l'addition de l'échelon des producteurs. À en croire les témoignages que j'ai reçus, le cinéma et la télévision sont particulièrement touchés par cette tendance. Autrefois, le système des studios hollywoodiens reposait sur une relation relativement claire entre producteurs, réalisateurs et scénaristes. Mais un processus apparemment infini de sous-inféodation managériale a fait fleurir une ribambelle de producteurs, assistants producteurs, producteurs exécutifs et autres consultants dont l'occupation principale consiste à essayer de trouver quelque chose de concret à faire, n'importe quoi. Selon certains, l'insipide médiocrité, voire la totale incohérence des scénarios de nombreux films contemporains, s'expliquerait en partie par ce phénomène. En effet, tous ces intervenants superflus tiennent à apporter leur petite pierre à l'édifice scénaristique pour pouvoir dire qu'ils ont participé au produit final. Plusieurs personnes m'ont raconté comment les choses se passent dans le développement télé. Ces petites boîtes qui inventent des idées de programmes et tentent de les vendre à de plus grosses. L'exemple qui suit illustre les profonds changements induits par l'introduction de mécanismes de marché dans le processus. Owen. Je bosse dans le développement. C'est un pan du monde de la télévision qui a connu une croissance exponentielle ces 20 dernières années. Avant, les programmes télé étaient commandés par le directeur de chaîne. Il demandait simplement à un producteur qu'il aimait bien de créer une émission, n'importe quoi, un truc qui lui plaisait. Il n'y avait pas de développement. Il n'y avait que de la fabrication de programmes. Aujourd'hui, n'importe quelle boîte de télé ou de cinéma a sa propre équipe de développement avec 3 à 10 membres. Et il y a de plus en plus de décideurs dont le boulot est d'écouter leur pitch. Dans tout ce petit monde, personne ne fabrique de programme. En 4 ans, je n'ai pas vendu une seule émission. Ce n'est pas qu'on soit particulièrement nul, c'est à cause du copinage et des petites histoires. 4 années pour un résultat néant. Pendant ce temps-là, j'aurais aussi bien pu pisser dans un violon, ça n'aurait rien changé. où j'aurais pu faire des films. Je dirais que, en moyenne, une équipe de développement bosse sur une nouvelle émission tous les 3-4 mois. C'est du foutage de gueule de bout en bout. Voilà qui rappelle singulièrement ce que l'on entend dans le monde universitaire. Les gens ont les boules, non seulement parce que tout le processus est absurde, mais parce que, comme chaque fois qu'il s'agit simplement de cocher des cases, ils finissent par passer plus de temps à exposer ce qu'ils font, à le mettre en chiffres et en colonnes, à en discuter en long, en large et en travers qu'à le faire vraiment. Dans le cinéma, la télévision et même la radio, la marchandisation prend un tour encore plus désolant, car elle condamne une bonne partie des salariés à se donner du mal pour des programmes qui n'existent pas encore et ne verront jamais le jour. Apollonia a bossé quelque temps dans une équipe de développement où sa fonction était de pitcher des émissions de télé-réalité intitulées « Quick », le pitch des hommes décrétés trop-volage par le vote du public subissent une vasectomie en direct live, « Trans au foyer », ou encore, c'est véridique, « Trop gros pour baiser ». Pour tous ces projets, il fallait travailler sur le casting et la promotion, bien qu'aucun d'eux n'ait jamais été produit. Apollonia. En général, on pondait des idées ensemble et ensuite on essayait de les vendre aux chaînes. Ça impliquait d'aller dénicher des talents, de fabriquer une petite vidéo de promo de 30 secondes pour quelque chose qui n'existait pas encore, puis de la faire circuler afin de convaincre une chaîne. Pendant tout le temps que j'ai été là-bas, on n'a pas vendu une seule émission. Sans doute parce que mon boss était un crétin. Apollonia se tapait tout le boulot, ce qui permettait au vice-président et au vice-président adjoint, c'est eux qui formaient l'équipe avec elle, de sillonner la ville en hélico pour aller déjeuner avec d'autres vice-présidents et vice-présidents adjoints. En somme, de jouer les grands pontes des médias. Tous ces efforts pour zéro émission vendue. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a dérapé? Et concrètement, aujourd'hui, comment cela se passe-t-il quand une idée d'émission finit par être acceptée? Un scénariste hollywoodien a été assez aimable pour me faire part de son point de vue d'insider sur ces questions. Oscar. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, des années 1920 aux années 1950, les studios fonctionnaient verticalement. Il y avait un seul type à leur tête qui prenait toutes les décisions et investissait ses propres deniers. Les studios n'appartenaient pas à des conglomérats et n'avaient pas de conseil d'administration. Leurs directeurs étaient loin d'être des intellectuels ou des artistes, mais ils avaient du flair. Ils osaient prendre des risques et sentaient instinctivement ce qui pouvait faire le succès d'un film. Au lieu d'embaucher des armées d'agents administratifs, ils faisaient travailler des bataillons de scénaristes dans leur département fiction. Ces derniers, supervisés par les producteurs, étaient partie intégrante des effectifs. D'ailleurs, tout se passait en interne, acteurs, réalisateurs, scénographes, plateaux de tournage, etc. Dans les années 1960, ce mode de fonctionnement a commencé à être remis en question. Selon certains, il était grossier, tyrannique et étouffait le talent artistique. S'est ensuivi une période troublée au cours de laquelle on a pu voir percer quelques visions novatrices. Puis rapidement, l'industrialisation a pris le dessus, entraînant des effets beaucoup plus asphyxiants que le dispositif précédent. Oscar. Il y a eu des occasions dans les années 1960 et 1970 avec le nouvel Hollywood. Beatty, Scorsese, Coppola, Stone, etc. À cette époque, l'industrie du film était un vrai chaos. Mais finalement, dans les années 1980, des groupes monopolistiques ont pris le contrôle des studios. Le tournant majeur, je crois, ça a été le rachat de Columbia Pictures par Coca-Cola, même si l'aventure n'a pas duré longtemps. À partir de là, les films ont cessé d'être fabriqués par ceux qui les aiment, ou même qui les regardent. Clairement, cela coïncide avec l'avènement du néolibéralisme et d'autres changements sociaux de plus grande ampleur. Dans ce nouveau système, c'est foutaise à tous les étages. Le processus de développement, les scénaristes préfèrent parler d'enfer du développement, impose que chaque scénario passe entre les mains non pas d'un, mais d'au moins une demi-douzaine de gestionnaires qui sont autant de copies conformes. Ces types ont des postes comme Oscar les énumère, administrateur délégué des contenus et des talents internationaux, administrateur délégué exécutif, vice-président exécutif du développement ou encore, mon préféré, vice-président exécutif de la création télévisée. La plupart possèdent des MBA en marketing et en finance, mais ignorent à peu près tout de l'histoire et de la technique du cinéma ou de la télé. Leur vie professionnelle se résume, pour ainsi dire, à l'image des chefs d'Apollonia, à envoyer des mails et à s'absenter pendant des heures pour de prétendus déjeuners au sommet avec d'autres huiles au titre tout aussi grandiloquent. Résultat, l'opération consistant à présenter et vendre une idée de scénario, autrefois relativement simple, dégénère en un jeu d'autopromotion labyrinthique qui peut se prolonger des années durant avant qu'un projet soit enfin validé. Le pire, c'est que cela ne concerne pas seulement les scénaristes indépendants qui démarchent spontanément les studios. Les scénaristes employés au sein de studios ou de sociétés de production sont logés à la même enseigne. Ainsi, Oscar est obligé de travailler avec un incubateur. Celui-ci, un peu comme un agent littéraire, l'aide à préparer ses dossiers de présentation avant de les expédier à travers son propre dédale vers d'autres grands décideurs en interne ou en externe. Oscar décrit les étapes du processus dans le cas d'une émission télé. Cela se passe exactement de la même façon pour les films. Oscar. Alors voilà, je développe un projet de série avec cet incubateur. On rédige une bible, un document d'une soixantaine de pages qui expose en détail le concept, les personnages, les épisodes, les intrigues, les thèmes, etc. Après, c'est la tournée des popotes pour vendre le projet. On le présente à tout un tas de diffuseurs, de financeurs et de sociétés de production. Des gens qui occupent, soi-disant, le haut de la pyramide. Vous pouvez passer des mois à essayer de leur parler, à envoyer des mails dans le vide et tout. Téléphoner est jugé trop insistant, à la limite du harcèlement. Leur boulot est de lire des projets et d'en chercher de nouveaux. Pourtant, ils sont aussi injoignables que s'ils travaillaient dans une cahute au fin fond de la jungle amazonienne. Après la première prise de contact, s'ouvre un ballet d'une importance stratégique. Il s'écoule toujours au moins une semaine entre chaque échange. Finalement, au bout d'un mois ou deux, un gestionnaire va peut-être manifester suffisamment d'intérêt pour consentir à un entretien en face à face. Oscar. Quand vous les rencontrez, ils vous demandent de leur refaire tout le pitch qu'ils sont censés avoir déjà lu. Après, ils vous posent quelques questions préparées à l'avance, super génériques, truffées de mots tendances. Ça reste toujours très évasif. Et puis, ça ne loupe jamais. Ils précisent bien que, dans le cas où ils décideraient d'aller plus loin, le projet devra encore être approuvé par toute une tripotée d'autres cadres. L'entretien se termine, vous ressortez et ils vous oublient. Du coup, vous devez les relancer. Et c'est reparti pour un tour. En fait, il est très rare qu'un de ces gars vous dise explicitement oui ou non. S'il dit oui et que finalement le projet ne mène nulle part, ou bien s'il est mis en œuvre mais fait un bide, ce sera sa faute. S'il dit non et que le truc fasse un succès ailleurs, on lui reprochera d'avoir loupé le coche. Ce que le gestionnaire déteste le plus, c'est endosser une quelconque responsabilité. À partir de là, le jeu consiste à garder la balle en l'air le plus longtemps possible. Pour simplement poser une option sur une idée, ce qui n'implique qu'une avance financière symbolique, il faut obtenir l'aval de trois autres filiales de la société. Une fois la prise d'option actée sur le papier, une nouvelle valse s'engage pour tenter de gagner du temps. Oscar. Ils vont me dire, par exemple, que le document sur lequel ils ont mis une option est trop long pour qu'ils puissent le faire circuler. Il leur faut un texte plus court. Ou alors, brusquement, ils veulent modifier le concept. Du coup, réunion, discussion, brainstorming. Tout cela sert essentiellement à justifier leur poste. Il y a toujours autant d'avis différents que de personnes assises autour d'une table, juste pour que chacune puisse prétendre avoir une raison d'être là. Non seulement c'est une cacophonie d'idées, mais elles sont exprimées dans les termes les plus vagues et les plus abstraits qui soient. Alors que ces gens se vantent d'être les as du marketing et les rois de la formule percutante, ils ne profèrent que des généralités. Le gestionnaire adore recourir aux métaphores et exposer ses grandes théories sur la mentalité du public, ce qu'il a envie de voir, comment il va réagir à la narration. Beaucoup s'imaginent un peu comme des Joseph Campbell d'entreprise. Là encore, c'est probablement l'influence des philosophies à la Google, Facebook et autres mastodontes. Des fois, j'entends des trucs du style « Je ne dis pas que vous devriez faire X, mais peut-être que vous devriez faire X. » Une chose et son contraire dans la même phrase. Plus vous les pressez pour avoir des détails, plus ça devient nébuleux. De mon côté, je m'efforce de décrypter leur baragouin et de reformuler ce que je crois comprendre. Il arrive aussi que le type soit complètement, mais alors complètement d'accord avec le scénariste sur tout, puis qu'il lui envoie un mail sitôt la réunion finie pour lui demander de faire l'inverse. Ou alors, quelques semaines plus tard, il lui annonce qu'il faut revoir le projet de A à Z. En même temps, imaginez s'il se contentait de serrer la main du postulant en lui disant « Allez, je vous laisse vous mettre au boulot ». À quoi ça servirait d'avoir un vice-président exécutif de la création ? Et que dire de 6 ? En d'autres termes, la production des films et des programmes télé dans le monde d'aujourd'hui rappelle étrangement ces cabinets d'audit qui forment leurs employés à faire traîner en longueur les versements d'indemnisation aux plaignants ou même l'affaire Jarndyce contre Jarndyce de Dickens. Plus cela s'éternise, plus on a d'excuses pour multiplier à l'infini les postes intermédiaires et plus on peut siphonner de fric avant qu'il ait la moindre chance d'aller à ceux qui font le vrai boulot. Oscar. Tous tintouin pour un document qui fait maintenant 15 pages. Représentez-vous le truc avec encore plus d'intervenants. Le scénariste, le réalisateur, les producteurs, l'équipe de tournage, la post-production. Ça vous donnera une petite idée de la folie totale qui règne dans cette industrie. Ici, nous atteignons les hautes sphères de la bullshitisation, qui sont aussi les moins faciles à étudier. Il est impossible de connaître le fond de la pensée des vice-présidents exécutifs de la création. Même ceux qui, en leur fort intérieur, pressentent que leur job ne rime à rien, c'est-à-dire pour autant qu'on sache presque tous, ne l'admettront probablement pas devant un anthropologue. On en est donc réduit à faire des conjectures. En attendant, les conséquences de leurs actes s'étalent sous nos yeux chaque fois que nous allons au ciné. Laissons le mot de la fin à Oscar. Ce n'est pas un hasard si les films et les séries télé sont si pourris, pour le dire sobrement.